Le scandale des maisons de retraite. Le 30 janvier 2018, les syndicats CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC appellent à une grève nationale des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, entre guillemets, pour exiger une prise en charge humaine et digne des personnes hébergées. L'an dernier, un conflit avait opposé les aides-soignantes de la maison de retraite des Opalines de Foucheran, commune de 2000 habitants située à côté de Dôle dans le département du Jura, à la direction de cet établissement du 3 avril au 27 juillet 2017. Depuis, les dénonciations et les protestations envers ces établissements se sont multipliées. Lorsque 8 aides-soignantes des Opalines se sont mises en grève, bientôt rejointes par les salariés de la cuisine et du ménage, elles dénonçaient surtout le sort réservé aux personnes dépendantes dont elles avaient la charge, entre guillemets. Le matin, on les lève sans leur demander leur avis. On sait déjà qu'on n'aura pas le temps. 15 minutes pour la toilette, l'habillement, le petit déjeuner, les médicaments. Alors il faut choisir. Est-ce qu'on lave les cheveux ou les dents, la douche hebdomadaire, il est rare qu'on la tienne. Ces travailleuses ont tenu 117 jours, malgré l'embauche d'intérimaires pour les remplacer, malgré un directeur leur annonçant d'emblée qu'elles n'auraient, entre guillemets, rien, ni maintenant, ni demain, ni jamais, et en dépit du refus de l'Agence régionale de santé, ARS, d'imposer quoi que ce soit aux Opalines, alors que c'est l'ARS qui paye les soignants. Même l'Union départementale de la CGT, au départ favorable, trouvait que le mouvement durait peut-être un peu trop. Elles se sont rendues devant les grosses entreprises comme Solvay à Tavaux dans le Jura, devant les autres maisons de retraite du groupe, où elles ont été applaudies depuis les fenêtres, devant les domiciles des actionnaires à Beaune et à Montbéliard, au CHU de Dijon et à celui de Besançon. Ainsi, malgré leur petit nombre, les grévistes ont réussi à populariser leur mouvement dans tout le monde ouvrier du Jura et de la Côte d'Or. Un article de Florence Aubonnat à la une du Monde, 18 juillet, donna à leur grève un retentissement national qui lui permit de relayer le mécontentement des familles des patients et celui d'un personnel souvent épuisé et à bout. Les résidents eux-mêmes ont dénoncé la situation qui leur était faite. Des centaines de milliers de familles recherchent désespérément une place pour leurs parents et se heurtent aux tarifs exorbitants de ces établissements où le coût de l'hébergement dépasse souvent la pension de retraite de leurs proches, les obligeant à vendre leurs biens. À ces difficultés s'ajoute souvent la crainte de perdre leur place s'ils protestent trop, ou même de voir leurs proches en subir les conséquences. Mais le plus déchirant est qu'après tous les sacrifices consentis, ils ne sont même pas sûrs que le pensionnaire sera protégé et soigné. Car ces établissements font face à un manque chronique de personnel en général et de personnel qualifié en particulier. Rien de tout cela n'est pourtant nouveau. Des scandales ont éclaté autour des maisons de retraite privées pratiquement dès leur création, et quasiment dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. En 2004 déjà, le secrétaire d'État aux personnes âgées estimait à 200 000 le nombre de lits indignes sur les 600 000 existants à l'époque. Mais il est vrai qu'en une génération, la situation a bien changé, ne serait-ce que par la constante augmentation du nombre de personnes âgées. Le chercheur Bertrand Pauget écrivait en 2008, ouvrez les guillemets, « Le fait inédit réside moins dans la croissance de la population que dans l'arrivée massive d'une génération à l'âge de la vieillesse. Cette situation est inédite dans sa structure. La proportion de personnes dites vieilles par rapport à l'ensemble des classes d'âge n'a jamais été aussi importante. Massive, le phénomène n'est plus seulement occidental mais mondial, et rapide, une génération. » Depuis l'Antiquité, le taux de personnes considérées comme vieilles oscille sans doute entre 6 et 8%. La population des plus de 60 ans représente actuellement 21,3% de la population et on atteindra les 30% en 2020. Il y a aujourd'hui 11,7 millions de plus de 60 ans, mais ce chiffre va doubler d'ici à peine plus de 10 ans. Fermez les guillemets. Éléments d'histoire des maisons de retraite en France, proposition d'article, cahier de recherche en histoire immédiate 2008. Aujourd'hui, 730 000 personnes vivent en institution pour personnes âgées, soit 20% de plus qu'en 2004, 43% des EHPAD sont publics, 31,5% sont privés à but non lucratif et 25,5% sont des établissements privés commerciaux. Le désengagement de l'État. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'État a pris en charge les institutions et les maisons qui recueillaient, souvent pêle-mêle, les vieux et les indigents. Hospices et asiles sont devenus majoritairement publics ou associatifs à but non lucratif, tout en conservant le même personnel, infirmières et médecins, religieuses et bénévoles confondus. Tous officiaient alors dans un même état d'esprit fait de paternalisme charitable et d'assistanat envers les pauvres et les déshérités. Mais cet état d'esprit changea dans les années 1970 avec la généralisation des retraites et de la sécurité sociale. À la suite du choc pétrolier et de la crise, l'État se désengagea peu à peu des services publics et les attaques contre le déficit de la sécurité sociale se multiplièrent. les lois de décentralisation de 1982 à 1987, que le Parti socialiste considérait comme une grande avancée, déléguait aux collectivités régionales, départementales et locales tous les secteurs d'activité du service public considérés comme secondaires et non rentables, en particulier tout ce qui concernait la vieillesse et les maisons de retraite. Cette grande avancée n'allait pas jusqu'à libérer des fonds permettant la prise en charge de ces secteurs par les collectivités locales. Dans la continuité face à l'accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes, la loi de 1991 donna pour mission au secteur privé de créer des maisons de retraite. Aujourd'hui, ces établissements doivent signer une convention tripartite pour 5 ans entre l'État, le département et la maison de retraite. L'État se décharge ainsi sur le secteur privé d'une partie de sa mission auprès des personnes âgées, tout en le finançant. Les 15 000 morts de la canicule de 2003 ont fait apparaître la situation réelle dans laquelle vivaient les résidents de ces maisons de retraite. Nombre d'entre eux n'étaient pas correctement hydratés, ce qui montre qu'ils étaient parqués dans ces institutions comme du bétail. Suite à ce scandale, le gouvernement Raffarin a dû débloquer 9 milliards d'euros, crédit que certains ont qualifié de plan Marshall pour la vieillesse. Et c'est alors qu'un véritable coup d'envoi a été donné aux institutions privées. Avec retard, cette catastrophe sanitaire mettait en lumière les changements qui s'étaient opérés dans la société les années précédentes. Le nombre de personnes vivant plus longtemps s'était fortement accru. Les comportements en matière de prise en charge de la vieillesse évoluaient. Les enfants ne pouvaient plus s'occuper de leurs parents très âgés et atteints d'affections lourdes. Par ailleurs, les progrès de la médecine prolongeaient la durée de vie et justifiaient une prise en charge médicale plus poussée. Enfin, sujet délicat s'il en est, les personnes ayant des parents à charge, quand ils ne pouvaient s'en occuper eux-mêmes, tenaient à ce qu'ils bénéficient cependant du meilleur. Et en effet, il n'y avait aucune raison de ne pas tous profiter des avancées de la science et du progrès. Engouement des financiers. La vieillesse devint de fait un domaine d'investissement intéressant. Financiers et marchands allaient s'y précipiter et, avec leur sens poétique bien connu, parler à ce sujet d'or gris. Les financiers britanniques, avec plus de retenue, parlèrent de « silver economy ». Enquêtant sur les dysfonctionnements constatés dans les maisons de retraite lors de la canicule, un article du Figaro, 27 août 2003, s'interrogeait, ouvrez les guillemets, « Pourquoi un tel engouement sur un secteur qui, de prime abord, n'a rien d'attrayant ? Rentabilité, sécurité et visibilité répondent de concert les financiers. Rentabilité d'au moins 15% par an. Sécurité, car le risque de faillite est réduit sous l'effet conjugué du vieillissement de la population et de la pénurie de maisons de retraite. Une visibilité sur le long terme. On estime que la population de plus de 80 ans devrait doubler de 2003 à 2013. » Fermez les guillemets. Un pur bonheur, car peu de secteurs industriels sont capables de leur offrir de telles garanties. C'est d'ailleurs avec cette vision financière que les cadres de ces établissements furent sélectionnés. Une directrice de maison de retraite privée témoigne, entre guillemets. « Je dois donner mon taux d'occupation, le TO, toutes les semaines. Il est contrôlé et fixé par le groupe qui oblige à remplir les lits au maximum, comme une chaîne hôtelière ou une compagnie aérienne. » Claire Allette, les maisons de retraite, alternative économique numéro 303, juin 2011. Il y aurait dans le pays 7883 EHPAD pour un marché de 25 à 30 milliards d'euros. Pour 2014, les trois principaux acteurs en France, Korian, Orpea et Domus Vie, ont cumulé à eux trois plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le leader européen, Korian, est un groupement de plusieurs sociétés d'actionnaires qui possède plus de 600 établissements en France. Orpea, qui le talonne de près, a fait l'acquisition en 2011 de 57 établissements, 4800 lits. Cela lui permet de gagner 2 ans de développement et de viser au moins 1,2 milliard de chiffre d'affaires, soit une progression de 25%. Pour la célèbre banque d'investissement Goldman Sachs, le marché français est en partie protégé par l'État, ce qui l'amène à cette analyse, entre guillemets. Cette demande non satisfaite permet aux opérateurs privés français de conserver des taux d'occupation de 95%, ce qui octroie à cette niche sectorielle un attrait spécifique. Investir.fr, 22 février 2011. Tant qu'il y aura une pénurie de places en maison de retraite, leurs affaires fleuriront en France. Mais pour leur extension, il est nécessaire que ces grands groupes privés se tournent vers l'étranger. Par exemple, le groupe Maison de Famille, détenu par la famille Muliez, propriétaire du groupe Auchan, a 70% de ses établissements à l'étranger. Le chiffre d'affaires réalisé en Allemagne par Korian est passé au cours de ces 3 dernières années de 200 à 850 millions d'euros, après l'acquisition de 2 groupes privés, Curanum et Casarea. Orpea, quant à lui, vient d'ouvrir un EHPAD de luxe en Chine. Cette marchandisation de la vieillesse a engendré divers phénomènes, dont le plus important est sans doute un écart croissant entre public et privé. On le constate déjà dans leur implantation géographique. Si les EHPAD du secteur public sont répartis dans l'ensemble des départements et de façon plutôt harmonieuse par rapport à la population des plus de 75 ans, il n'en est pas de même pour les EHPAD privés à but lucratif. En effet, ces derniers sont plus présents en Île-de-France, le long du littoral, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région de Bordeaux et en Charente-Maritime, là où la population des seniors a les plus gros revenus. De même, les établissements publics, parce qu'ils disposent de médecins et d'infirmières 24 heures sur 24, ont les pensionnaires les plus malades, exigeant les soins les plus lourds et donc plus d'argent. Ces patients aux pathologies multiples, peu valides et rarement autonomes, souvent grabataires, le secteur public les prend en charge avec tout ce que cela veut dire en termes de dépenses en personnel et en soins. Selon les gériatres, il faudrait dans l'idéal 0,8 professionnels soignants par patient, toutes professions confondues, médecins, infirmières, ergothérapeutes, aides-soignants, etc. Dans le secteur public, ce taux varie de 0,65 à 0,7 professionnels, tandis que dans le privé, des établissements en ont 0,35 à 0,40 et encore, en comptant tout le personnel, lingerie, cuisiniers ou jardiniers. Une journée en EHPAD coûte environ 114 euros par personne, dont 36 euros pour la section soins, réglée intégralement par l'Agence régionale de santé. Le budget hébergement, le plus gros poste, concerne l'hôtellerie, les repas et l'entretien. Il est entièrement à la charge des résidents, revient à 58 euros par jour dans le public et on estime son coût dans le privé à plus de 40% supplémentaire. C'est d'ailleurs sur ce poste que les EHPAD privés font leurs bénéfices. Enfin, le budget dépendance, de 17 euros par jour, est majoritairement financé par les départements. Il sert surtout à couvrir tous les frais liés à l'assistance des résidents en perte d'autonomie et donc à payer les aides-soignantes. C'est cette partie dépendance qui est concernée par la loi dite d'adaptation de la société au vieillissement, loi votée en 2016 sous Hollande, qui en modifie le mode de calcul. Jusqu'alors, l'enveloppe était négociée chaque année dans chaque établissement selon le profil des personnes âgées, mais aussi selon le nombre de malades d'Alzheimer, les handicaps ou les polypathologies lourdes. Avec cette nouvelle loi, ou grande dame des gériatres, une formule mathématique s'appliquera, la même pour toutes les maisons de retraite, quelle que soit la lourdeur de leurs tâches. Cette loi va encore favoriser les établissements privés qui ont les résidents les moins lourdement malades. Selon la Fédération hospitalière française qui est vent debout contre cette loi applicable depuis le 1er janvier 2017, elle aura pour résultat de réduire l'enveloppe des EHPAD publics de 200 millions d'euros par an. Le vrai scandale des maisons de retraite. La population des plus de 60 ans a considérablement augmenté ces 10 dernières années et bon an mal an, la société a répondu à ce mouvement d'une façon essentiellement commerciale, par la création et la multiplication d'institutions accueillant les personnes âgées dépendantes. D'un côté, les institutions publiques sont débordées, car elles sont souvent les seules à pouvoir accueillir les populations les plus pauvres et les personnes les plus dépendantes. Celles du privé, qui ont fleuri ces dernières années, tentent d'attirer les résidents les plus rentables et les moins dépendants, et elles ne répondent pas tout à fait aux besoins de la société, et leur fonctionnement peut conduire à une maltraitance institutionnalisée. Leur défaut est de ne pas être placés, la plupart du temps, sous contrôle médical. Leur origine est même tout à fait étrangère au système hospitalier, où les compétences et les pratiques se transmettent d'une génération à l'autre, et qui, malgré ses insuffisances, bénéficient du savoir-faire d'un personnel apte à pallier les négligences graves. Les EHPAD, nés en dehors de ce système, ne bénéficient pas de cette tradition hospitalière. Le personnel n'y est ni protégé ni formé. Il ne s'y trouve pratiquement aucun encadrement médical. Souvent même, le personnel issu des hôpitaux, aides-soignantes, infirmières, se retrouve avec toute la charge et doit assurer l'encadrement médical avec des situations angoissantes, avec une seule infirmière de jour ou de nuit qui doit tout gérer dans une ambiance cauchemardesque. Faute d'une solide formation en gérontologie ou médicale, le personnel de ces institutions se retrouve souvent démuni devant des tâches lourdes. C'est une des causes de la misère de ces établissements. Selon le rapport de la mission flash menée à l'été 2017 à l'Assemblée nationale sur la situation dans les EHPAD par la députée macroniste Monique Iborra, qui, tambour battant, a bâclé son dossier en 15 jours, la maltraitance y est institutionnelle. Mais quand elle en arrive aux aspects financiers, elle ne dénonce que leur complexité administrative. Quant aux actions envisagées, elles sont repoussées à une enquête plus approfondie fin 2018. Les opalines illustrent l'évolution des EHPAD. Dégageant quelque 300 000 euros de bénéfices par an, cet établissement est la propriété d'une société d'investissement, la SGMR, qui investit aussi dans d'autres branches, comme les supermarchés. Les actionnaires propriétaires de familles de Beaune, Côte d'Or, Ménéchet et Péculier constituent la 365e fortune de France en 2017 et possèdent près de 45 EHPAD. La politique des propriétaires des EHPAD est de tout gérer de façon comptable et à l'économie, les personnes âgées elles-mêmes étant des marchandises qui doivent être rentables. C'est cet état d'esprit qui est transmis par des directions au service des donneurs d'ordre. Et leur argent investi dans les maisons de retraite doit rapporter autant que les boîtes de sardines et de petits pois de leur supermarché. Par-delà l'engouement des financiers attirés, en tout cas pour un temps, par l'odeur de l'argent, la situation des EHPAD illustre l'incapacité de la société capitaliste à régler ce problème fondamental auquel est confrontée toute société humaine, assurer à toutes les personnes âgées une fin de vie digne sur le plan matériel et moral, et l'assurer pour tous en fonction des besoins réels de chacun et des meilleures possibilités de la collectivité. La manière dont la société actuelle gère cette situation suffit pour condamner une organisation sociale dont le seul moteur et la seule morale sont la recherche du profit. 11 janvier 2018.